Nous allons mettre en mouvement une autre partie du programme de ces 3 mois. Cette partie, je l'ai appelée « Ouverture à la vie intérieure du chrétien ». Je vais vous expliquer ce que c'est. Ouverture à la vie intérieure du chrétien. J'ai mis ce sujet parce que, à parcourir les assemblées, à m'entretenir même avec les pasteurs, je suis arrivé à cette constatation que la vie intérieure est une chose sur laquelle on a, peut-être par mégarde, disons, laissé peser un certain silence. Et il y a un certain nombre de chrétiens, soit nouveaux convertis, soit même plus anciens convertis, qui n'ont pas idée, ou ont trop peu idée peut-être, de la vie intérieure. D'abord, de la nécessité d'une vie intérieure chez le chrétien, et de ce qu'est la vie intérieure, et également, n'est-ce pas, de ce qui peut faire obstacle à cette vie intérieure, ou au contraire, de ce qui peut en favoriser le développement, car il faut qu'elle se développe, et le maintien de la vie intérieure. Je ne vous lis pas de texte a priori, parce que nous aurons l'occasion d'en consulter en cours de route. D'abord, disons que la vie intérieure, c'est la vraie vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne, n'est-ce pas, qui ne comprenne que des attitudes extérieures, de la bonne volonté même, ou de la foi. Je ne veux pas dire, n'est-ce pas, que la foi soit absente, mais de la foi qui ne s'appliquerait qu'à certains besoins accidentels. Ah, j'ai quelque chose, bon, alors je vais user de ma foi pour prier le Seigneur, c'est bien cela, mais ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne est une vie qui nécessite un feu intérieur. La vie de foi, on parle souvent la vie de la foi. Savez-vous ce qu'on entend par la vie de la foi? Généralement, on entend soit le fait de marcher, par exemple, quand on n'a pas les ressources assurées, qu'on ne sait pas si on pourra réaliser quelque chose, mettons surtout financièrement, mais on pense devoir servir le Seigneur d'une certaine manière ou devoir régler sa vie d'une certaine manière, et alors on dit, je vivrai par la foi, j'attendrai du Seigneur, le Seigneur me donnera, le Seigneur pourvoira, n'est-ce pas, je vivrai par la foi. Voilà ce qu'on appelle quelquefois la vie de la foi, ou encore autre chose, certains appellent vie de la foi l'exercice des dons spirituels. Quand on est en culte, par exemple, dans une réunion de culte ou une réunion de prière, et que les dons spirituels peuvent s'exercer, alors, n'est-ce pas, on parle de vie de la foi. Eh bien, c'est une expression qui est là mal utilisé. Je ne dis pas que quelqu'un qui sert le Seigneur, n'est-ce pas, et puis qui s'avance, qui se met à servir le Seigneur sans s'être assuré de ressources préalablement, mais qui compte sur le Seigneur pour pourvoir à ses besoins, parce qu'il sait qu'il est dans la direction du Seigneur, attention, il sait qu'il est dans la direction du Seigneur, je ne dis pas que celui-là n'est pas quelqu'un qui marche avec la foi et par la foi. Mais ce n'est pas ça vraiment que l'on peut nommer la vie de la foi. C'est utiliser une expression qui n'est pas là à sa place. Il y a évidemment des habitudes pieuses telles que la lecture journalière des Écritures, faites systématiquement, souvent je veux dire, n'est-ce pas, livre après livre ou chapitre après chapitre, lecture journalière des Écritures qui est suivie d'un temps de prière. Ce sont là de louables habitudes qu'on ne peut qu'encourager, qu'on ne peut même, n'est-ce pas, que recommander, bien sûr. Cependant, même si ces bonnes habitudes sont réellement bienfaisantes, elles sont bienfaisantes, elles n'attestent pas forcément la réalité d'une vie intérieure. Je ne veux mettre personne en cause, bien entendu, mais je me suis trouvé dans des familles où il y avait, et pour tout vous dire, c'était même des familles d'artistes. Il y a eu chez des artistes des gens consacrés, vous savez. Hein. Eh bien, j'y trouvais dans de telles familles où subsistaient des habitudes excellentes. Bon, la bonne raison, c'est que j'en ai pris pour mon grade. Je me suis dit, ben, ils ont vraiment des habitudes journalières de pieuses qui sont meilleures que les miennes. Hein? Ah, je peux prendre à ce sujet-là exemple sur eux. Des habitudes pieuses. Par exemple, le soir, la prière, et même souvent la famille faisait la prière à genoux. Hein? On lisait assez longuement. Enfin, quelqu'un faisait même un certain commentaire ou donnait une pensée, n'est-ce pas? On chantait quelques cantiques. Enfin, c'était bien, il y avait un culte, en somme, familial. C'était très bien. Et, chers amis, pourtant, il n'y avait pas de véritable vie intérieure, vie de foi. Voyez comme une chose n'atteste pas nécessairement l'autre. Alors, disons, quelle est cette vie intérieure? La vie intérieure qui fait véritablement le chrétien. Eh bien, c'est un contact de l'âme rachetée avec Dieu par Jésus-Christ. Un contact avec Dieu par Jésus-Christ. C'est la vie qu'anime la présence réelle du Christ en soi. Non pas une présence prétendue, mais une présence réelle du Christ en soi. C'est donc, employons le mot, la vie de communion, mais d'une communion réelle. C'est la vie de communion. Cette vie a son mouvement. Vous savez que l'apôtre Paul définit la vie comme étant l'être et le mouvement. Et c'est bien. L'apôtre Paul était un certain philosophe de foi, philosophe, bien sûr, serviteur de Dieu, mais c'est bien, n'est-ce pas? Le mouvement et l'être et le mouvement, voilà la vie. Eh bien, cette vie intérieure a son propre mouvement, le mouvement, non pas le mouvement des bras, le mouvement du corps, n'est-ce pas, mais le mouvement des facultés spirituelles de l'âme. L'âme dispose de beaucoup d'affinités spirituelles qui doivent se mettre en éveil, n'est-ce pas, à telle enseigne, d'ailleurs nous verrons des textes, qu'il est dit « j'ai soif du Dieu vivant ». Voilà, n'est-ce pas, une aspiration, une affinité spirituelle, soif du Dieu vivant. C'est entièrement spirituel. J'ai soif du Dieu vivant. C'est la vraie vie de l'esprit. Je ne dis pas que ceux qui exercent les dons spirituels ne soient pas des gens qui le font par l'esprit de Dieu. Mes chers amis, c'est bien s'ils exercent les dons spirituels dans leur église. Je dis bien dans leur église. Parce que personnellement, je ne suis pas partisan des dons spirituels en dehors de l'église. Je ne suis pas spirituel. Et ce n'est pas, je l'ai montré l'année dernière, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce qu'enseigne l'Écriture. Les dons spirituels doivent s'exercer devant l'Église, pas en particulier. Bon, eh bien, sauf, si vous voulez, la prière en langue, n'est-ce pas, je laisse ça de côté. Mais les dons spirituels qui sont pour l'édification de l'Église, n'est-ce pas, doivent s'exercer devant l'Église. Eh bien, je ne dis pas que les dons spirituels, donc, quand ils sont exercés, ne soient pas le produit, n'est-ce pas, de l'esprit, l'action de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Si, bien sûr, c'est cela. Mais quelqu'un peut très bien exercer des dons spirituels, n'est-ce pas, et puis en dehors des réunions de l'Église, et les réunions de l'Église, c'est souvent le culte, et ça n'a lieu qu'une fois par semaine, en dehors, n'est-ce pas, du culte et éventuellement des réunions de prière, il peut très bien ne pas avoir une vie intérieure, tout au moins suffisante. Voyez par conséquent que l'exercice des dons spirituels ne peut pas signifier nécessairement la vie de l'esprit. Ça signifierait la vie de l'esprit à condition qu'il y ait bien chez celui qui les exerce une vie intérieure authentique. Il y a la soif de Dieu, avons-nous dit, et l'amour, tel que le premier commandement de Dieu, celui que Jésus a signalé comme étant le premier de tous les commandements de Dieu, eh bien, tel qu'il le définit, aimez Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Chers amis, voilà une belle définition, ou si vous voulez, voilà les bases de la vie intérieure posée, n'est-ce pas ? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Croyez-vous que ce premier commandement-là est révolu ? Croyez-vous qu'il est passé ? Il est le premier de tous les commandements, a dit le Seigneur Jésus. Et tous les autres commandements, ils dérivent de celui-là. Et il y en a un second qui est pareil au premier, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bon, je ne veux pas parler de celui-là maintenant, n'est-ce pas ? Ça nous éloignerait. Mais le premier commandement, c'est le fait. Or, vous voyez bien, et nous allons le montrer, que ce premier commandement, précisément, situe la vie intérieure. En effet, si j'aime Dieu, je l'aime. Avec quel amour ? Pas l'amour humain. Il s'agit pas de ça. Il s'agit d'un amour de l'esprit, précisément. Il s'agit de l'amour de Dieu versé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Eh bien, si j'aime Dieu de tout mon cœur, j'y mets le cœur en entier, j'y mets la pensée en entier, j'y mets l'âme, c'est-à-dire, nous avons dit ce matin, l'âme, toute notre individualité consciente. Tout ce qui peut s'exprimer, si vous voulez, dans mon individualité humaine, je le mets là-dedans. Et je mets en plus toute la force dont je suis capable. La force, n'est-ce pas ? Ma force, et bien entendu, il faudra comprendre que la foi est dans cette force, n'est-ce pas ? Ou cette force vient de la foi. Eh bien, je vais donc mettre tout ce que j'ai de disponible pour aimer Dieu. N'est-ce pas, pour l'aimer. Alors, voilà, n'est-ce pas, quelle va être la base de la vie intérieure. Il y a une volonté qui, de par la foi, est tendue vers celle de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous disait que, lui, il faisait la volonté de son Père qui est dans les cieux. La volonté. N'est-ce pas ? Rien que cela. Et telle était la perfection. Hein ? La perfection, c'était cela. La perfection, c'était qu'il faisait toute la volonté de son Père et rien que cela. Eh bien, il faut donc que le disciple du Seigneur Jésus tende sa volonté vers celle de Dieu et il aura en lui une conscience qui se trouve réveillé par le Saint-Esprit. Nous avons ici une année étudié la conscience, et cette conscience le juge. L'apôtre Paul lui-même fait appel à sa conscience, qui juge, n'est-ce pas ? Et cette conscience, elle est une émanation de Dieu, elle est en plein éveil dans la vie intérieure, et c'est par elle que l'Esprit va attester que nous sommes enfants de Dieu. Quand l'Esprit, n'est-ce pas, atteste que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, c'est que, précisément, il y a une vie intérieure dans laquelle l'Esprit peut très bien s'exprimer, et puis il dit, voilà, tu es agréable à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et, chers amis, je vous dirai qu'il y a un nombre assez impressionnant de chrétiens qui m'ont dit à ce sujet, je n'ai pas, moi, l'attestation du Saint-Esprit que je suis enfant de Dieu. Pourquoi n'avait-il pas cette attestation du Saint-Esprit ? Était-ce qu'il vivait d'une façon vraiment désordonné? Est-ce qu'il ne résistait pas aux tentations, etc.? N'était pas à ce point de vue-là, n'est-ce pas, tellement différent des autres, mais c'est qu'il n'avait pas de vie intérieure. Et je me souviens d'une personne, c'était un homme, un frère, à qui j'avais dit, écoutez, il vous faut une vie intérieure. Et je lui avais expliqué comment il allait entrer dans la vie intérieure et s'y maintenir. Je lui dis, prenez ça d'abord, puis ne vous souciez plus du Saint-Esprit qui va attester que vous êtes enfant de Dieu. Quand vous aurez la vie intérieure, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, il a eu, en effet, cette vie intérieure. Un beau jour, il est venu tout rayonnant, il m'a dit, le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu. Il me le dit, et j'en suis sûr, et j'entends, n'est-ce pas, sa voix. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir cette attestation dont parle Jean s'il n'y a pas la vie intérieure. Le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le souffle divin, assure en l'homme une fonction qui est d'ordre divin, le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit nous a été donné. Hein? Vous connaissez ces textes, alors je ne veux pas... bien sûr que vous les connaissez, mais nous aurons l'occasion d'en lire, soyez tranquilles. Mais nous disons, je vous rappelle ceci, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur Jésus a bien insisté à la fin de son ministère essentiellement, n'est-ce pas, en disant, le Saint-Esprit qui est avec vous, vous le connaissez, mais il sera en vous. Et alors, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera ce qui est de moi, il n'annoncera rien de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit assure donc dans l'homme une fonction divine qui consiste à purifier l'homme, à chasser les passions, les attachements étrangers. Il révèle à l'homme le fond de son cœur. C'est alors que nous l'appelons peut-être plus particulièrement conscience chrétienne. Il révèle à l'homme le fond de son cœur. Il révèle Dieu. Il révèle Dieu. Je crois qu'il faudra que, dans le cours peut-être de cette étude, je m'arrête sur la révélation de Dieu le Père par Jésus-Christ. C'est une chose importante, très importante. Il révèle Dieu, il conduit dans toute la vérité, il annonce, il éclaire le Christ de l'Évangile, il apporte la puissance, la sagesse, il fait jaillir l'eau vive. Bien entendu, je parle ici, n'est-ce pas, de chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui se maintiennent dans la plénitude du Saint-Esprit, qui maintiennent en eux la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Eh bien, nous avons dit que cela, c'était d'abord la communion. Alors, tout de même, il faut que nous voyons maintenant quelques textes. Et nous allons voir comment Jésus parle de la communion. La communion, le mot vient d'un mot grec, koinonia, de koinos, qui est un adjectif, non pas un verbe, mais un adjectif, et cet adjectif signifie chose qui est commune à plusieurs, commun à plusieurs. Koinos, n'est-ce pas, ça veut dire commun à plusieurs. Et c'est de là que vient le mot koinonia qui a donné en français communion. C'est une chose qui est commune à plusieurs. Commune, par conséquent, à plusieurs, combien y en a-t-il? Eh bien, il y a le disciple du Seigneur, il y a le Seigneur Jésus, il y a le Père, nous ferons notre habit. Vous voyez, on est déjà plus que deux, on est déjà trois, n'est-ce pas? On est déjà trois, et le Saint-Esprit, si vous voulez, ce qui fait quatre. Nous allons lire des textes. Jean, dans Jean, chapitre 14 et verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Faites bien attention à ce mot, vous connaîtrez. Il ne s'applique pas à une connaissance obtenue extérieurement. C'est démontrable rien qu'avec le contexte. Il ne s'agit pas, par exemple, n'est-ce pas, nous avons appris une nouvelle, quelque chose qui s'est passé, et nous connaissons cette nouvelle. Mais c'est venu extérieurement, et c'est rentré par nos oreilles d'abord, pas ou nos yeux, si nous l'avons lu sur un écrit, c'est rentré extérieurement, et ce sont nos facultés naturelles qui ont reçu la nouvelle et enregistré la nouvelle dans notre mémoire. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une connaissance qui précisément est intérieure. C'est dans, pour employer l'expression de Paul, c'est dans notre être intérieur que cette connaissance-là vient. Et elle vient par l'Esprit de Dieu. Voilà la pensée du Seigneur ici. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà la communion. Vous voyez, rien que ce verset-là, la situe. Vous savez que Paul nous dira dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, que nous avons tous été appelés à la communion de son Fils. Eh bien, la communion, la voilà. Elle est essentiellement définie par ce verset 20. En ce jour-là, j'ai employé un autre mot qui n'est pas la traduction du mot grec, mais qui vous fera mieux comprendre. En ce jour-là, vous réaliserez intérieurement que je suis en vous, que je suis en mon Père. Vous réaliserez donc que Jésus est dans le Père. Alors à ce moment-là, il n'y aurait même plus besoin de doctrine qui nous affirme que Jésus est Dieu. Parce que si Jésus est dans son Père, nous aurons intérieurement la certitude que Jésus est Dieu, puisqu'il fait un avec Dieu. Avec le Père, n'est-ce pas? Vous voyez comme quand on aborde des discussions, par exemple sur ce plan-là, sur cette question-là, n'est-ce pas, on aborde des discussions doctrinales, cela montre déjà, n'est-ce pas, que la vie intérieure n'est pas grand-chose. Ah, chers amis, jamais nous ne devrions mettre ces choses-là en question, en discussion. Jamais pouvons nous informer de toutes sortes de choses. N'est-ce pas, mais discuter, comme j'ai quelquefois entendu faire, ça, je ne peux pas accepter ça. Que l'on discute, par exemple, sur la divinité du Seigneur Jésus, ah ben moi, il y en a un qui me dit, quoi, eh ben moi, c'est pas, mais enfin, je pense que Jésus a été une manifestation de Dieu, n'est-ce pas, mais enfin, à savoir si ceci, si cela, oh, horreur, horreur. Intérieurement, c'est une chose intérieure, cela vous le saurez, c'est dit dans les Écritures, bien sûr, c'est exprimé par l'Écriture. Mais cela va être intérieur, n'est-ce pas? Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et comme il le dit dans la prière sacerdotale, chapitre 17, mon Père et moi, nous sommes un, n'est-ce pas? Mon Père, je suis en mon Père, n'est-ce pas? Et mon Père est en moi. Alors, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous connaîtrez aussi que vous êtes en moi, que vous, n'est-ce pas, mes disciples, vous êtes en moi, et que je suis en vous, si bien que la communion nous est présentée comme ceci, n'est-ce pas, une interpénétration. Et Jésus commence toujours par, n'est-ce pas, demander à son disciple de le prendre en lui, de le recevoir en lui, n'est-ce pas? Alors, le disciple en Jésus, et Jésus vient dans les disciples. Par conséquent, nous avons cela. Réciprocité de pénétration. C'est une pénétration, en somme, réciproque. Voyons le verset 23, 14-23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, ah, si quelqu'un m'aime. » Parce que c'est pas tout, n'est-ce pas, d'avoir la foi. Attention à cela, n'est-ce pas? Avoir la foi, c'est bien, on dit cela. Il le faut, il y a la foi. La foi, ça, nous n'en aurons jamais de trop. Elle est toujours nécessaire, plus nécessaire encore dans la vie chrétienne, si je puis dire que pour arriver à la conversion au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, on arrive à la conversion avec une foi qui n'est pas tellement grande et forte, mais chez le chrétien, elle doit grandir et se fortifier. Alors, quand il y a la foi, il doit y avoir l'amour. L'amour pour Dieu et pour le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et garder, nous l'avons déjà dit, a le sens de conserver pour la mise en pratique, pour l'observation. Prenez d'ailleurs un dictionnaire français, vous verrez que garder a aussi le sens de observer. il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alors, conséquence, il garde la parole. Mais ça, c'est-à-dire qu'il observe la parole. Il a, avec sa foi, il met sa foi à observer la parole du Seigneur. Et alors, mon Père l'aimera. Alors ça, c'est tout à fait indépendant de lui, n'est-ce pas? Lui, il a mis sa foi, n'est-ce pas? Il a mis sa foi à garder les commandements. Bien, la grâce de Dieu l'a aidé, bien sûr, n'est-ce pas? Et quand il est arrivé à cela, n'est-ce pas? Il arrive à cela, garde. Oh, c'est vite fait, ça, vous savez, de garder la parole. C'est très vite fait. Non. Évidemment, il faut que ça se perpétue de jour en jour, mais c'est très vite fait. Alors, il observe la parole. Alors, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, c'est-à-dire mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'y a pas de quoi se mettre à genoux devant une pareille chose, chers amis. Il n'y a pas de quoi vraiment être confondu de ce que nous dit là le Seigneur. Comme vérité, grande vérité, avec un grand V, vérité authentique. Nous ferons le Père, le Créateur, le Dieu vivant et vrai, celui qui domine toutes choses, lui qui a prononcé la chose qu'il a dite, s'est accomplie. Il a jeté les étoiles dans l'espace. Il a construit ce grand univers, il a créé le ciel et la terre, il nous a créés nous-mêmes, il est maître de tout, il va réaliser une gloire sans pareil dans l'univers entier lorsque le péché sera détruit et que Satan sera lui-même dans les temps de feu, n'est-ce pas? Eh bien, celui-là, dès maintenant, déjà, le grand Dieu vivant, lui, fait sa demeure chez nous en même temps que son Fils. Quelque chose d'extraordinaire, chers amis. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Magnifique, magnifique. Bon, alors, ensuite, nous allons au verset 15. Au chapitre 15, je veux dire, verset 4. Chapitre 15 et verset 4. Jésus nous parle encore de la communion. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Soit le sarment attaché au cep, ça nous tombe sous le sens, n'est-ce pas? On serait dans une vigne, ou même n'importe quel autre arbre qu'une vigne, arbre ou végétal, soit on verrait une tige détachée. Bon, c'est bien que cette tige-là va pas produire du fruit, n'est-ce pas? C'est plus possible. C'est tellement, ça tombe sous le sens, voyez-vous. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Nous aurions par exemple un cep de vigne là qui viendrait d'être cassé à sa naissance, à sa sortie du cep, là, il serait cassé, là, il serait par terre, il aurait des feuilles, tout ça tout au long. Ce cep-là, c'est fini. Ici, il peut avoir des petits grappillons, ils ne grossiront jamais, c'est fini. Il ne peut pas porter du fruit. Cela, nous le savons. Eh bien, c'est la même chose. La réalité est aussi, est telle, n'est-ce pas? Elle est aussi vibrante que cela, aussi certaine. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voyez-vous, toujours les deux mêmes choses, n'est-ce pas? Faites ce mouvement pour demeurer en moi et moi je ferai l'autre mouvement pour demeurer en vous. Voilà, n'est-ce pas, comment se réalise surnaturellement, parce que tout ça c'est du surnaturel. C'est du surnaturel qui vient dans la vie naturelle de l'homme d'aujourd'hui. De l'homme de foi, bien sûr, du chrétien. Hein. Eh bien, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, c'est magnifique. Demeurez en moi, ça ne veut pas dire venez, n'est-ce pas, faire élection de demeure en moi, et puis, sortez de votre demeure, allez vous promener, prenez le train, faites le tour de la terre, vous reviendrez de temps en temps à la demeure. Enfin, non. Il y a des gens qui font une demeure quelque part, par exemple, puis alors ils ferment la porte, comme moi, par ma maison en ce moment, par exemple, j'y suis pas, n'est-ce pas? Vous voyez, bon, je demeure bien à Ganges, par exemple, et j'y suis pas. Bon, eh bien, mais là, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de demeurer et de ne pas y être. Dans le sens du grec ici, demeurer veut dire, n'est-ce pas, deux choses. Eh bien, d'abord, désirez, n'est-ce pas, ayez la volonté de foi de demeurer en moi, n'est-ce pas, de vous placer en moi, comme Moïse avait été placé dans le creux du rocher. La même chose. pas demeurez en moi, mais demeurez à l'autre sens de maintenez-vous dans la demeure. Enfin, maintenez-vous dans cette demeure, demeurez, maintenez-vous. Maintenez-vous en moi et moi, je me maintiendrai en vous. Nous avons le verset 6 aussi, toujours du chapitre 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Vous savez, ça c'est pas drôle, hein. Vous savez, les sarments qui sont jetés au feu, qui brûlent, quand il s'agit de sarments, bon, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais si le sarment représente un disciple du Seigneur Jésus, et qu'il soit jeté au feu, quel va être ce feu? Ce feu va être celui de l'enfer, pas celui de la perdition. Attention, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors, d'aucuns vous diront, là, les commentateurs, vous savez, ils s'agitent beaucoup quand ils sont là-dessus, n'est-ce pas? Ils vous diront, si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment chrétien. Il avait l'apparence d'être chrétien, il n'était pas vraiment chrétien. Bon, je veux bien. Alors, il n'était pas sarment. Il n'a jamais été sarment, n'est-ce pas? Alors, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Il n'a jamais été sarment. Mais, n'est-ce pas, la parole de Christ peut nous montrer aussi un sarment dont le point d'attache sur le cep se brise ou se flétrit, n'est-ce pas? Et ce sarment s'étrangle. On voit ça en matière d'horticulture, par exemple, n'est-ce pas? On voit quelquefois des tiges qui, à la sortie du tronc, par exemple, n'est-ce pas, ou de la branche principale, s'étranglent. Elles s'étranglent. Et alors, elles s'étiolent. Hein? Ben, s'il y a un sarment qui est comme ça, on le retire et on le jette au feu. Le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça, c'est une parole qu'on devrait graver sur les tables de son cœur. Est-ce que vous avez un stylo pour écrire ça sur les tables de votre cœur? Eh bien, le Seigneur, il en a un stylet. C'est pas un stylo, c'est un stylet. Et ce stylet, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Et le ministère de Paul, il gravait ça par un stylet sur le cœur des gens. Eh bien, il faut que le ministère grave cela sur votre cœur, le ministère de l'Esprit, le ministère qui agit dans l'Église, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors là, vous avez blanc-seing, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, écoutez, c'est bien simple. Je sors mon carnet de chèques, je prends tout le carnet de chèques, même, n'est-ce pas? Je signe tout en blanc. Et voilà, vous mettrez vous-même ce que vous avez à mettre dessus. C'est formidable, ça. Qui ferait ça, n'est-ce pas? Qui ferait une chose comme ça? N'est-ce pas? Remettre son carnet de chèques en signant les chèques en disant, mettez ce que vous voulez dessus. Ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mettez la somme que vous voulez. C'est un blanc-seing. Ça s'appelle un blanc-seing. Hein? Ça existe au milieu des hommes, un blanc-seing, mais vous savez, tout le monde ne le fait pas, ça, n'est-ce pas? Eh bien, moi, tout le premier, je n'irai pas délivrer à quelqu'un, n'est-ce pas, à n'importe qui, un blanc-seing, n'est-ce pas, avec ma signature, n'est-ce pas, et lui, il pourrait mettre ce qu'il voudrait au-dessus, n'est-ce pas, je ne ferai pas une chose comme ça. Eh bien, le Seigneur l'a fait, avec nous, n'est-ce pas, c'est un blanc-seing, mais il y a une clause, bien entendu, n'est-ce pas, cette clause, c'est celle de la communion, puisque si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, nous avons vu que c'était là, n'est-ce pas, le fait de la communion. Eh bien, s'il y a communion, alors là, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Nous allons voir au chapitre 16, le verset 22. Chapitre 16, le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre choix. C'est beau tout ça. Vous savez, ce qui se passait, c'est que les apôtres étaient tout tristes. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait qu'il allait partir. Il allait s'en aller. Je m'en vais, et je vais vers mon Père. Alors, mais pourquoi? Mais on le chasse pas. On veut pas se défaire de ce Seigneur. On est si bien. Eux, ils seraient bien restés, ils savaient pas comment ça pouvait finir, où ça irait, n'est-ce pas, ils savaient pas. Ils ne voyaient même pas tout le monde qui était à évangéliser. Eux, ils voyaient une chose, n'est-ce pas, le bien-être. Ils ressentaient dans leur cœur un bien-être. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils faisaient des étapes un peu partout, vous savez, je suis sûr, à la Belle Étoile, souvent, n'est-ce pas. Et ils avaient à manger souvent un frugal repas. Mais on était si bien à côté de Jésus, et nous le comprenons, hein. Nous comprenons, on est si bien à côté de lui, on le suit, on arrive là, il y a une foule. Oh, le Seigneur brise des pains, des poissons, et il nourrit des milliers de personnes. Oh, c'est fantastique tout ça. Mais c'est évidemment, leur cœur était constamment soulevé. Puis ils entendaient les paroles du maître qui avait de l'autorité, le maître avait de l'autorité, plus que les scribes. Il y avait des scribes qui prêchaient très bien, hein, et qui avaient beaucoup de connaissances. Il y avait des scribes qui étaient des hommes remarquables. Il y en a un, par exemple, Esdras, n'est-ce pas, qui était très bien. Mais le Seigneur Jésus était encore bien au-dessus de n'importe quel scribe. Il avait une autorité divine. Alors, quand on était à côté de lui, les pharisiens déjà s'étaient réjouis à entendre Jean-Baptiste. Quand ils entendaient Jean-Baptiste, n'est-ce pas, il goûtait quelque chose de suave, parce que c'était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu cause toujours, n'est-ce pas, un grand bien-être dans le cœur. Mais entendre le Seigneur, et les apôtres étaient là depuis 3 ans, ils entendaient le Seigneur et ils ont entendu toutes sortes de choses, puisque Jean nous dit s'il fallait écrire tout ce que le Seigneur a fait et a dit, on remplirait la terre, et je ne sais pas si la terre sera assez grande pour contenir tout, n'est-ce pas. Bon, alors, vous rendez compte, n'est-ce pas, de ce qu'ils voyaient disparaître. Ils allaient perdre ça. Le Seigneur allait s'en aller. Ils allaient perdre ça. Alors, ils étaient tout tristes. Il y a rien à faire, n'est-ce pas. On a beau lui dire au Seigneur, mais reste avec nous. Non, le Seigneur répète constamment, je m'en vais, il faut que je retourne à mon Père. Alors, ils étaient tristes. Et c'est pourquoi le Seigneur leur parle ainsi. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Quel était ce revoir? Mais c'était, attention, la Pentecôte, n'est-ce pas, et toute la période d'après Pentecôte, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, leur cœur se réjouira, goûtera la joie dont le Seigneur leur parle, et il leur parle de la joie en leur disant, ma joie parfaite, qui n'est pas par conséquent quelque chose de terrestre, quelque chose qui accourt parmi les hommes, mais une joie spirituelle 100%, une joie toute céleste, une joie comme des hommes ont pu en goûter, et je dirais quand ils étaient bien à l'aise, non, quand ils étaient sous le coup quelquefois de très dures persécutions. Il y a le Sadhu Sondersing qui raconte qu'un jour on l'a mis dans une citerne, en lui cassant le bras, n'est-ce pas, et on l'a mis là-dedans. C'était plein d'ossements, là, en bas. Il y avait une odeur épouvantable qui indisposait, n'est-ce pas. Et puis, son bras le faisait souffrir. Il était là, vraiment dans un état très incommode, très mal à l'aise, peut-être sur le point de défaillir. Et il dit lui-même ceci, pendant le temps que je suis resté dans cette citerne, vous savez que c'est un ange qui l'a fait sortir, parce qu'on avait fermé la porte à clé, puis c'était le lama, il y avait la grosse clé de la porte sur lui, n'est-ce pas, et il n'y en avait qu'une. Mais l'ange, il en a trouvé une autre. Et il a ouvert la porte, n'est-ce pas, et il l'a fait sortir, avec je ne sais quelle corde, et il l'a remonté de là. Eh bien, le Sadhu dit, quand j'étais là, dans le tombe, hein, je goûtais la joie. Alors, vous voyez, c'est une joie que l'on peut goûter même au milieu de la souffrance. On se demande quelquefois comment, n'est-ce pas, nous pouvons être dans la joie et être affligés d'un autre côté. Mais ce n'est pas la même chose. C'est qu'il s'agit de la joie parfaite de Christ. Alors, vous vous réjouirez, vous aurez cette joie, et nul ne vous ravira cette joie parce qu'elle n'est pas d'ici-bas, parce qu'elle n'est pas à la discrétion des hommes, parce qu'on peut vous persécuter, vous mettre dans le fond d'une citerne, n'est-ce pas. Eh bien, on ne peut pas vous ravir cette joie. Nous avons des frères qui sont persécutés dans les pays de l'Est. Mes amis, et des persécutions auxquelles nous n'avons pas le droit de ne pas prêter l'oreille, d'être sourd. Hein. Moi, j'y pense à ces persécutions et je me laisse informer quand c'est possible, n'est-ce pas? Parce que ce sont des frères et des sœurs en Christ. Et je vous assure, ils ont, eux, une vie intérieure. Beaucoup ont une vie intérieure très active, très vive. Eh bien, ils sont persécutés là-bas, n'est-ce pas? Eh bien, ces persécutions durent souvent. Hein? Il y a des noms, nous avons des noms, nous avons des photographies. J'ai tout ça dans mon dossier. Il y a des photographies de gens, de chrétiens persécutés, sont emprisonnés. Mais il y en a qui sont ont été émis dans des hôpitaux psychiatriques où on les traite avec toutes sortes de produits chimiques, n'est-ce pas? Il y en a qui ont même été torturés, chers amis, parce que vous savez que les pays communistes, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est très beau. Tout ce qui se passe, c'est joli, n'est-ce pas? C'est joli. Mais ils ont été très durement persécutés, en Chine aussi. Hein. Eh bien, voyez ce que dit le Christ? On ne peut pas leur ravir leur foi, même par la persécution. Cette joie-là. Vous vous rendez compte de la qualité de cette joie et de la nature de cette joie? On ne peut pas la leur ravir. Vous pensez à ça? On ne peut pas la leur ravir. Et la seule manière de leur ravir, ce serait de les persécuter, de leur faire du mal. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut absolument pas. C'est magnifique. Alors, vous voyez la qualité de cette joie qui est un des éléments magnifiques de la vie intérieure. Bon, je n'ai pas terminé, bien entendu, tout ça, loin de là, mais je vais m'arrêter ce soir, parce que c'est l'heure qui me le commande.